Bonjour, bienvenue dans notre musée imaginaire, 10e émission, et aujourd'hui nous allons avoir une séance particulière, à savoir quelle est la place des femmes artistiques dans les mouvements artistiques du 19e et 20e siècle. Et aujourd'hui nous allons évoquer une femme exceptionnelle, Rosa Bonheur, la Grande Rosa, 1822-1899. Rosa Bonheur et le réalisme. Deux tableaux à regarder immédiatement, Labourage nivernois, le Sombrage qui est au musée d'Orsay et le Marché aux chevaux qui est au MoMA à New York. Donc c'est une femme artiste, c'est une femme exceptionnelle par sa vie, c'est un contre-modèle. Son œuvre, c'est une peinture animalière, elle est issue d'un milieu familial pauvre, mais c'est une famille d'artistes. Son père, artiste peintre, galère pour vivre, c'est un Saint-Simonien, un chrétien progressiste, disciple du comte de Saint-Simon. Et les Saint-Simoniens sont d'accord pour que les femmes portent des pantalons, ce qui à l'époque était interdit aux femmes. Son père se radicalise dans ses pensées saint-simoniennes, il devient de plus en plus pauvre. En 1829, la famille s'installe à Paris. Sa mère meurt en 1833 à 36 ans. Rosa est profondément marquée, c'est une épreuve, d'autant plus que sa mère est enterrée dans la fosse commune. En 1834, son père rentre dans l'ordre des chevaliers du Temple, Rosa y rentre en son tour. En 1837, Rosa fait de la peinture. Son père, qui a une grande ouverture d'esprit, l'encourage et elle va se former à la peinture. Elle fait beaucoup de copies. En 1837, son père reçoit une commande de portraits et en particulier celui d'une jeune fille appelée Nathalie Mika. Coup de foudre entre les deux adolescentes et par la suite, Nathalie deviendra la première compagne de Rosa jusqu'à la mort de Nathalie. Rosa va assurer entièrement cette relation. Ses frères et ses sœurs sont aussi peintres. En 1841, elle expose au Salon, qui est un événement parisien pour les artistes, et elle expose des peintures animalières, des scènes de paysans. Elle se rend régulièrement aux abattoirs parisiens pour mieux étudier les animaux. Elle est autorisée, ce qui est extraordinaire, par dérogation à porter un pantalon. C'est ce qu'on appellera une permission de travestissement. C'est la première femme au XIXe siècle à porter le pantalon. Et plus tard, ça sera George Sand. Elle vit avec Mika et en 1847, nouvelle exposition au Salon, tableaux, labourages et animaux de Cantal. C'est un succès critique, c'est le travail reconnu de son vivant. Elle reçoit une commande d'État d'un tableau en 1848, Labourage nivernois, le Sombrage, qui est au Quai d'Orsay. Pardon, Quai d'Orsay, non. Elle reçoit une commande de l'État français, un tableau en 1848, intitulé Labourage nivernois et Sombrage, qui est au Musée d'Orsay. Il est exposé en 1849 et là, c'est un succès colossal. C'est la première femme à vivre indépendante, un grand réalisme dans ce tableau. Les animaux sont mis en valeur, mais c'est un réalisme assagi. Réalisme hallucinant des mondes de terre, c'est la terre qui est mise en avant au premier plan et quand on regarde le tableau, on a l'impression que la terre viendrait te retourner devant vous près d'une précision photographique. Et elle dira... Je vais célébrer au moyen de mon pinceau la trace des sillons d'où sort le pain pour nourrir l'humanité entière. Liée avec George Sand et en 1849, mort de son père, elle refuse tout mariage, trouve une certaine liberté de mœurs, elle finance sa famille. Et j'emploierai une méga citation, un deal qu'elle passe avec ses frères et sa sœur. Je vous donne du travail, mais laissez-moi vivre ma liberté amoureuse. Nathalie Mika est aussi peintre. La mère de celle-ci vient vivre avec elle, dont toutes les trois vont vivre ensemble. On évacue l'homme pour créer un espace de création. Son atelier à Paris est immense, c'est une véritable ménagerie. Elle devient la spécialiste de la peinture animalière. Et en 1851-1853, elle collabore avec la maison Goupil, qui est un atelier de gravure, et c'est très intéressant car ses travaux, grâce à la gravure, sont diffusés dans le monde entier. Et puis, en 1853, c'est un chef-d'œuvre, le marché aux chevaux qui est au musée à New York, au MoMA. Un tableau de 2,44 m de hauteur, longueur 5 mètres. Ce marché, Rosa l'a vu à Paris, ce sont des paysans qui viennent vendre leurs chevaux aux maquignons. Les chevaux sont impressionnants et c'est un succès phénoménal au prix du public. C'est un raz-de-marée et un succès auprès de la critique. C'est une femme artiste qui est la plus en vue. Elle a une dimension internationale. Son acheteur va l'exposer en France, en Angleterre, et son mécène va l'envoyer aux États-Unis. Et là, aux États-Unis, c'est un immense succès. Les commandes pleuvent de partout. En 1855, elle fait un tableau aussi qui est récompensé, La Fainaison en Auvergne. Rosa, donc, Rosa Bonheur, la grande Rosa, estime que si elle se marie avec un homme, elle ne pourra pas vivre de sa carrière d'artiste. Avec Nathalie, elle instaure un système matrimonial. Nathalie, avec sa mère, crée un univers féminin, à charge pour elle de s'occuper des tâches ménagères. Ainsi, elle libère Rosa de toute contrainte. Celle-ci peut se consacrer entièrement à sa peinture. Elles vont produire un contre-exemple sociétal. En 1859, elle s'installe au château de Bi, près de Fontainebleau, et le 10 juin 1865, chez elle, à Bi, elle reçoit la Légion d'honneur des mains mêmes de l'impératrice Eugénie. C'est la première femme artiste à recevoir la Légion d'honneur. À Bi, son atelier est un mini-zoo, une ménagerie en vrai, et en 1889, mort de Nathalie Mika, et celle-ci va léguer toute sa fortune à Rosa. Elle devient sa légataire universelle. Elle rencontre une Américaine, Anna Klumpt, qui devient sa nouvelle compagne. En 1889, exposition universelle à Paris, Buffalo Bill et les Indiens arrivent en France, spectacle d'un grand réalisme à couper le souffle, et Rosa sera la première à peindre le portrait de Buffalo Bill en 1889, et ce portrait, Buffalo Bill le gardera toute sa vie. Et aussi, elle s'intéresse aux Indiens et elle éprouve une passion pour les Indiens, elle fait de nombreux tableaux pour qu'on s'en souvienne. Elle décède en 1899, à 77 ans, du maladie pulmonaire, enterrée au Père-Lachaise. Elle lègue ses biens à sa compagne, Anna Klumpt. Et le caveau est très particulier. Le caveau est celui de la mère de sa première femme. C'est le caveau aussi de Nathalie. C'est son caveau à elle. Et c'est le caveau de sa deuxième femme, Anna. C'est le premier caveau féministe qui voit le jour. Quelle est la place de Rosa Bonheur dans le réalisme? Eh bien, selon un tableau du peintre Nickens de Kaiser, en 1850-78, qui peint un tableau sur les grands artistes de l'école française du XIXe siècle, Rosa Bonheur est la seule femme sur le tableau. Donc Rosa Bonheur, c'est la peinture animalière. Pour les chevaux, elle veut se mettre à la hauteur de Géricault, qui est un peintre romantique qu'elle admire beaucoup, le cheval en tant que force nourricière. Comparaison avec Millet, 1814-1875, Millet est un grand peintre réaliste qui va mourir pauvre, mais qui donne une vision sociale de la misère, exemple le tableau Les Glaneuses. Rosa Bonheur, elle, propose une vision idéalisée des paysans français, c'est ce qui plaît, elle monte la France qui s'enrichit, elle est une artiste riche. Donc carrière exceptionnelle dans un milieu exclusivement masculin, elle a des commandes d'État, elle est médaillée, elle reçoit la Légion d'honneur, elle est riche, elle assume sans lésion son indépendance, elle est célèbre et adulée. Elle assume une homosexualité féminine sans vraiment la revendiquer, transgression des stéréotypes de genre, à savoir elle fume, elle chasse le lapin, une lionne comme animal de compagnie, elle est habillée en vêtements masculins, elle porte le chapeau, tout le monde est stupéfié. En conclusion, Rosa Bonheur, c'est le réalisme apaisé, elle est dans la transgression, elle déjoue les codes de son époque, elle déjoue les stéréotypes de son époque.